Jusqu'à 9h, l'invité de France Inter est le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, bonjour.
Bonjour.
Le climat, on le sait, est un enjeu et un défi mondial. Hier, en Allemagne, une cour d'appel a accepté d'examiner la requête d'un paysan et guide de haute montagne péruvien qui veut contraindre le géant de l'énergie RWE à réparer les effets du changement climatique dans les Andes. Alors, c'est une entreprise du Nord, peut-être responsable de dégâts au sud. On verra, Nicolas Hulot, comment les choses vont évoluer. Mais à ce stade, est-ce une date importante? Est-ce le premier acte de ce qu'on appelle la justice climatique mondiale?
Vous savez, moi je l'ai toujours dit, l'histoire et la justice sont rarement amnésiques. Sur un certain nombre de sujets, que ce soit sur les enjeux climatiques, que ce soit sur les sujets de santé et environnement, à partir du moment où l'on sait, la responsabilité change de camp. Voilà. Et donc je dis ça parce que, notamment évidemment sur l'enjeu climatique, moi je vois cette espèce de tentation qu'il peut y avoir à une forme de résignation, de s'accommoder au fait que peut-être on a perdu la bataille climatique. Et je mets simplement voilà en garde, parce que effectivement il y a un moment ou un autre, on nous dira « mais vous saviez à l'époque, vous aviez la possibilité de prendre un certain nombre de décisions et vous ne l'avez pas faite ». Et puis c'est simplement que ça ramène les entreprises, quelles qu'elles soient, à leur responsabilité. Parce qu'il y a la responsabilité du citoyen, la responsabilité des politiques. Mais ce qui serait bien derrière tout ça, c'est que on remette à plat le rôle d'une entreprise. Mmh. Vous savez, hier, j'étais à Genève, à l'Organisation internationale du travail, qui s'appelle maintenant le Bureau international du travail. Et ils vont bientôt fêter leur centenaire. C'est-à-dire quand cette organisation a été créée après la Première Guerre mondiale. Si vous relisez ce que l'on a appelé l'esprit de Philadelphie. Quel était l'objet d'une entreprise? Quel était le rôle de l'économie à l'origine des choses? Eh bien, le rôle d'une entreprise, ça n'était pas, comme c'est dans le code civil aujourd'hui, le profit, ou en tout cas, l'objet n'était pas le profit. C'était bien de participer à l'épanouissement humain, c'était bien au service de l'homme. Et je pense que nous aurions tout à gagner dans ce siècle de mettre comme objectif de remettre les choses simplement dans le bon ordre. Moi, j'ai en charge l'économie sociale et solidaire. Mais l'économie, elle aurait toujours dû rester sociale et solidaire. Je ne dis pas que le reste de l'économie ne l'est pas, mais il faut revenir aux fondamentaux parce que si on veut un siècle pacifié, effectivement, l'économie est un moyen au service de l'homme et ça n'est pas l'homme qui est un moyen au service de l'économie qui elle-même est indexé au service de la finance.
Dominique Seux nous disait tout à l'heure dans son édito qu'il y avait effectivement un débat théorique et politique passionnant pour faire, ce que vous disiez, basculer la définition de l'entreprise.
Revenir à l'origine.
Voilà,
revenir
à l'origine. L'idée, disait Dominique Seux, ce serait d'ajouter à l'intérêt commun des associés, l'intérêt des salariés, des sous-traitants, de l'environnement, voire des générations futures.
Mais c'est une...
Vous pensez pouvoir y arriver? Nicolas Hulot, parce qu'on voit derrière ce qu'il faut débobiner.
Mais voyons les choses en grand. Je veux dire, ce siècle, il doit changer son paradigme. Et si on veut réconcilier... Vous savez, moi j'ai découvert l'autre jour que dans l'économie sociale et solidaire, la plupart des salariés ou des bénévoles vont au travail avec le sourire. Dans le reste de l'économie, il y a simplement 12% des gens qui vont au travail avec le sourire. Est-ce que ça, c'est pas un enjeu magnifique du 21e siècle de faire en sorte que la majorité des gens aillent au travail avec le sourire?
Si on regarde encore un mot sur cette affaire germano-péruvienne, ce qui est intéressant, c'est que le géant de l'énergie RWE n'est pas implanté au Pérou, mais le plaignant estime que ce géant de l'énergie a un rôle dans le réchauffement climatique et donc en dernière instance dans les risques d'inondation de l'endroit où il vit. Le spectre du coup de la responsabilité écologique potentielle est gigantesque.
Nicolas Demorand, je l'ai dit bien avant tout le monde, enfin, j'étais pas le premier, pas le seul, mais quand je place l'enjeu climatique sur un sujet de justice, parce que les conséquences climatiques, c'est l'injustice absolue. Pourquoi? Parce que ça frappe des hommes, des femmes et des enfants qui subissent les conséquences d'un phénomène qu'ils n'ont pas provoqué, qui lui-même est la conséquence d'un mode de développement dont ils n'ont pas profité et qui parfois s'est fait sur leur dos. Ça fait quand même beaucoup pour les mêmes populations. Alors, moi, nous ne sommes pas responsables de ce qui s'est forcément passé en amont, mais enfin, on ne peut pas s'en dédouaner, mais notre responsabilité, elle est engagée immédiatement. Hier, quand j'étais également à l'Organisation internationale des migrations, on me confirmait que d'ores et déjà le changement climatique occasionne deux fois plus de déplacements dans le monde que les conflits. Donc notre responsabilité, elle est là. Et tout temps que nous perdons à agir, à mettre en œuvre, à renforcer notre ambition, quelque part, transforme maintenant cette responsabilité en une forme de culpabilité.
Le sujet, on revient en France, est moins spectaculaire que le nucléaire ou le glyphosate, mais c'est un levier puissant qui consiste à régler le problème des passoires thermiques. L'idée est simple, pour réduire sa dépendance au nucléaire, eh bien, il faut consommer moins d'énergie et donc essayer de boucher en quelque sorte ces passoires thermiques. Est-ce que c'est ça? Parce qu'on vous l'a beaucoup reproché d'avoir abandonné l'objectif de 2025. Mais est-ce que c'est ça le chemin que vous avez privilégié, Nicolas Hulot, à savoir actionner le levier de la passoire thermique et de la rénovation thermique plutôt que l'autre chemin qui était possible?
Mais non, il y a un seul chemin avec quatre objectifs. Et les quatre objectifs sont indissociables. Et il y a effectivement dans les objectifs de la transition énergétique un objectif qui est de réduire notre consommation. D'ailleurs, c'est une bonne nouvelle, on a commencé non seulement à la stabiliser, mais à la baisser, donc ça prouve que c'est possible. Et ça, c'est l'intérêt de tout le monde. Parce que quand à confort égal, à service égal, vous pouvez baisser votre consommation, pour les ménages, vous gagnez en pouvoir d'achat, et pour les entreprises, vous gagnez évidemment en pouvoir d'investissement. On sait le faire, nos entreprises savent le faire, sauf qu'il faut massifier. Il faut le faire maintenant à l'échelle industrielle, et il faut mettre dans les mains, notamment des citoyens, des dispositifs d'accompagnement incitatifs, parce qu'en plus, c'est rentable assez rapidement. Voilà, on peut rentabiliser ces investissements, y compris dans les copropriétés, dans des temps assez courts. Donc on a présenté un plan avec Jacques Mézard sur l'efficacité énergétique en privilégiant ce qu'on appelle les passoires thermiques et en privilégiant notamment ce qu'on appelle les précaires énergétiques, c'est-à-dire ceux qui sont dans une double peine, c'est-à-dire qui ont froid et qui en plus ont du mal à boucler leur fin de mois. On a mis un plan sur la table, et c'est un peu ma méthode, pardon, mais ce plan, on le met à la concertation pendant 3 mois. Puis après, évidemment, on va valider un certain nombre de points.
14 milliards d'ici la fin du quinquennat pour les passoires. Vous les aurez?
Écoutez, si vous regardez le plan, notamment dans ce qu'on appelle le grand plan d'investissement d'avenir, ils sont là, sur les 5 ans. On change véritablement d'échelle. Mais vous savez, c'est pas de la dépense, là, pour le coup. Parce que tout ce que l'on met pour économiser nos dépenses d'énergie, tout ce que l'on met pour diminuer nos importations de pétrole, de gaz et puis de charbon, évidemment, puisqu'on va même fermer nos centrales à charbon, eh bien, c'est assez rapidement rentable. Donc ça, c'est typiquement le genre d'investissement qui n'est pas un investissement maastrichtien à perte, c'est un investissement où on fait très rapidement de l'économie et de l'économie durable.
Nicolas Hulot, on a 1000 sujets à aborder encore avec vous et avec les auditeurs de France Inter. J'aimerais juste vous montrer la une de l'Obs cette semaine. Pourquoi je reste? Hulot s'explique. Alors là, c'est affirmatif, je vous retourne la question. Pourquoi vous restez au gouvernement?
Alors, ce qui est marrant, c'est qu'un jour, j'apprends que je pars, le lendemain, j'apprends que je reste. C'est devenu une espèce de jeu dans lequel je me retrouve pas toujours. Je me pose pas la question tous les matins de savoir si je vais être encore au gouvernement demain matin. D'abord, je suis là pour, non pas pour rester, pour exister, je suis là pour faire. Tant que j'ai le sentiment que ça avance, même si parfois, évidemment, j'aimerais que ça avance plus vite, mais parfois, il faut un peu patienter pour aller plus vite après. J'ai aucune raison de me poser cette question, et je me la pose pas tous les matins, et je ne l'agite pas comme une sorte de menace tous les matins avec mes interlocuteurs au gouvernement. Je reste parce que je suis rentré, on part pas comme ça au bout de 6 mois, au prétexte que vous avez quelques contrariétés. Tous les ministres ont des contrariétés, parce qu'il faut combiner les souffrances du court terme et les enjeux du long terme, donc c'est un phasage, une synchronisation qui est fatigante, épuisante, mais on est là pour ça.
Yannick Jadot vous demande dans ce numéro, si vous avez même essayé sur le glyphosate, essayé sur le nucléaire, essayé sur le CETA. Les combats ont été perdus, mais est-ce que vous les avez menés, Nicolas Hulot?
Ce garçon me surprend. Non, enfin, d'ailleurs, il ne me surprend pas parce qu'il est très prévisible. D'abord, il est constant. Dans une forme d'adresse à vous lancer des couteaux au moment où vous vous y attendez pas. Mais je m'en étonne pas parce que j'ai connu ça au moment des primaires d'Europe Écologie. Je suis pas sûr que, en étant aussi caricatural, il serve la cause qu'il est censé défendre. Je le dis très gentiment. Mais parce que là, on peut pas, à mon avis, faire plus de mauvaise foi. J'ai d'habitude l'habitude d'être assez mesuré. Enfin, je suis bien placé pour vous dire que le réseau diplomatique français, moi-même, le président Macron, on a fait tout ce qu'on a pu. Et que, au passage, si la France n'était pas intervenue dans la lumière, mais également dans l'ombre, on revotait pour 10 ans l'autorisation du glyphosate. grâce à notre position. D'abord, on a changé d'échelle, parce que ce sujet-là, et derrière le glyphosate, l'ensemble des pesticides, il est maintenant incontournable. Et on est en train de basculer, parce qu'on est passé d'une stratégie qui était de reconduire sans autre prescription, maintenant à une volonté de sortir d'une manière programmée de l'ensemble de ces molécules. Donc c'est une vraie victoire, et je rappelle quand même que la France n'était pas seule, elle a eu ses alliés. On a simplement eu, au dernier moment, une défection, parce que nous pensions que l'Allemagne allait simplement s'abstenir, et vous l'avez vu d'ailleurs, oui. Madame Merkel elle-même s'en est affectée. Le ministre de l'Agriculture allemand a décidé pour finir de voter contre. Mais franchement, la France a été rendez-vous. Et donc, je trouve que c'est un peu injuste. C'est bien, évidemment, sur les sujets de santé, sur les sujets climatiques, d'avoir une exigence, une critique constructive. Mais en même temps, ça désespère tout le monde quand on n'est pas capable de cranter ce qui va dans le bon sens.
Je vous sens en colère, une colère froide, mais
oui,
une colère réelle.
Oui, parce que les effets d'estrade... C'est très sympathique, mais encore une fois, les sujets que l'on sert ne peuvent pas se nourrir de postures politiciennes. Voilà, c'est pas à la hauteur des enjeux. Je le dis très sincèrement. Et puis, j'en ai un peu assez qu'on me sourie en face. Et puis, effectivement, dès qu'on a le dos tourné, qu'on essaie d'exister dans les médias. Voilà.
Nicolas Hulot est l'invité de France Inter.